Eh bien, bonjour. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce week-end. Et j'aimerais d'emblée remercier Michel et Loïs pour leur accueil super chaleureux, super sympa. À la, je sais pas, est-ce qu'on est vraiment dans le midi ici? On peut dire qu'on est dans le midi ou pas? Ah ouais, écoutez, un accueil du midi. Hein? Amen, Solofo, t'es pas d'accord? À top niveau, franchement. Les gens sont sympas, vous avez un accent génial. Il fait toujours beau, toujours un grand soleil. Il y a toujours des grandes soirées malgaches quand on vient. C'est génial, vraiment. Donc, merci beaucoup. Et on a eu du plaisir à recevoir aussi Michel dans notre église à Genève l'année passée. Donc, en octobre, je n'y étais pas. Mais si vous voulez voir votre pasteur en vidéo, vous pouvez aller sur notre site, c'est eeig.ch. Cliquez sur octobre. C'était quand? C'était le 11 octobre de l'année passée. Et vous allez voir, il est super bon en vidéo. D'accord? Vraiment, vraiment bon. D'accord? Vous allez voir. Je voulais aussi simplement dire qu'il y a des personnes que vous ne connaissez pas parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a Adrienne et Suzanne Newman-Tancredi, vous pouvez dire bonjour. Et leurs amis aussi Didier et Mireille, vous pouvez dire bonjour. Et alors, Adrienne et Suzanne, on se connaissait à Paris, j'étais pasteur à Paris il y a presque 20 ans, si je ne me trompe pas. Et ensuite, j'ai quitté Paris pour aller à Genève, ils ont quitté Paris pour aller à Castres. Et donc, on a toujours été en contact. Et quand ils ont appris que j'allais être ici, on s'est dit, bah, écoutez, voyons-nous. Ils sont en train de prier le Seigneur pour voir s'il y aurait peut-être possibilité de démarrer une église là-bas. Donc, on va faire un brainstorming aujourd'hui et commencer à discuter et prier de cela. Mais je suis vraiment content de voir, c'est super. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes et dans vos projets d'église. Voilà. Alors, avec ça, je vais prier. Et ensuite, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est un sujet préféré de moi. Donc, on va s'incliner et prier. Seigneur, merci vraiment ce matin pour cette église et pour ces beaux chants que nous avons pu chanter, pour la parole de Dieu que nous voulons examiner maintenant, Seigneur. Parle-nous, fais-nous du bien et que ta parole vraiment résonne avec vérité dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Solofo a donné son témoignage tout à l'heure et il a beaucoup mis l'accent sur la grâce. Et le message que j'aimerais vous partager ce matin, je l'ai tout simplement appelé ceci, c'est pas juste. C'est pas juste. Parce qu'on va voir ce matin, on va parler de la grâce et vous allez voir que la grâce n'est pas juste du tout. Allez avec moi à peut-être qui est mon texte préféré de toute la Bible. Je ne sais pas si vous avez un texte préféré, c'est peut-être le mien. C'est dans Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1. Et j'aimerais vous lire ces quelques versets avant de les examiner ensemble. C'est ce qu'on appelle la parabole des ouvriers. La parabole des ouvriers. Je vais dire à partir du verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Et étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, paye-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu leur traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne t'ai pas fait de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Mes amis, ça c'est une parabole. Et une des raisons que j'aime cette parabole tellement, c'est parce que je suis une personne très émotionnelle. Et cette parabole est extrêmement émotionnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé de décrire la Bible avec ce terme émotionnel. Cette parabole-là, vous allez comprendre dans quelques instants. En fait, quand j'ai examiné ce texte pour la première fois il y a des années en arrière, je me rappelle que mon cœur a littéralement commencé à battre plus vite avec émerveillement. Et donc ma prière aujourd'hui, c'est que j'espère pouvoir vous transmettre un petit peu de ce côté d'émerveillement par rapport à cette parabole. Alors j'aimerais vous avertir, cette parabole dérange. Vous allez voir. Elle dérange parce qu'une lecture préliminaire de cette parabole, notre réaction est simplement de dire « mais c'est pas juste ». En bon français, ce n'est pas juste. D'accord ? Mais on le dit, c'est pas juste. Et ce qui arrive dans cette parabole ne nous paraît tout simplement pas équitable. Et c'est justement ce sentiment d'injustice que le Seigneur veut qu'on ressente. Pourquoi ? Parce que cette parabole nous décrit ce qu'est la grâce de Dieu. Et on va voir que la grâce de Dieu n'est pas juste. Non, la grâce de Dieu n'est rien d'autre que miséricorde, qu'une bénédiction non méritée de la main généreuse de Dieu. Et voilà pourquoi la parabole va nous déranger. Parce que la grâce, si nous saisissons ce qu'elle est vraiment, perturbe. En fait, on pourrait même dire que la grâce est scandaleuse. Alors, peut-être il faudrait définir un terme. Qu'est-ce que la grâce ? Alors, je résume. Voici ma définition de la grâce. La grâce est ceci, c'est l'amour et la faveur imméritée de Dieu, gratuitement accordée aux hommes par Dieu. Enfin, Solofo, tu as cité le verset clé, merci, tout à l'heure, Éphésiens 2, 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » En fait, la grâce, c'est tout simplement recevoir de Dieu ce que nous ne méritons pas. Et qu'est-ce que c'est que nous ne méritons pas ? Nous ne méritons pas le salut. Non, nous ne méritons qu'une chose de la part de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritons de Dieu une chose, en fait, c'est l'enfer éternel. Mais là, je vais trop vite. Regardons la parabole, d'accord ? Alors, je divise la parabole en trois parties. Numéro un, on va regarder la parabole. Deuxièmement, nous allons voir le pourquoi. Et troisièmement, les principes. Et tout commence avec P, ça j'aime bien, d'accord ? La parabole, pourquoi et les principes. Alors, regardons en premier la parabole. Accrochez-vous, ça va très très vite, d'accord ? Matthieu, chapitre 20, verset Car le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Alors c'est intéressant que là, il est en train de décrire un aspect spécifique du royaume de Dieu. C'est ce qu'il dit. Le royaume des cieux est semblable à. Donc il va décrire quelque chose de l'économie de Dieu, de ce qu'on appelle le royaume de Dieu ici sur terre. Alors l'histoire est simple. Il y a un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc il y a un vigneron, et comme il se faisait, c'est l'époque des vendanges, il doit aller faire cueillir ses raisins, donc il va à la place du marché, ça se fait beaucoup dans le Moyen-Orient, pour engager des salariés pour la journée pour aller dans les vignes et cueillir des raisins. Verset 2, il convainc avec eux d'un denier par jour et il les envoie dans sa vigne. Donc ils discutent, un denier, ok super, il les envoie dans la vigne pour travailler. Alors écoutez bien, c'est très important ce que je vais dire. Un denier était le salaire journalier d'un soldat romain. En fait, c'était un très bon salaire, tout à fait convenable. Donc, ils sont tout contents et ils partent à la vigne. Verset 3. Il sortit vers la troisième heure et ayant vu d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable » et ils y allèrent. Trois heures plus tard, la troisième heure, j'ai oublié de dire que la première heure, c'était 6 heures du matin. La journée allait de 6 heures, d'accord, 6 heures à 18 heures. Et donc, à la troisième heure, 9 heures du matin, le maître passe au marché de nouveau, voit d'autres ouvriers qui aimeraient se faire engager, et il les embauche sur le champ. Il dit, allez à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Donc, on ne sait pas le montant exact, mais tout le monde est content, il y a un deal qui se fait, et ils vont à la vigne. Verset 5, il sortit de nouveau vers la sixième heure, midi, et vers la neuvième heure, 15 heures, et il fit de même. Donc à midi, vraiment la grande chaleur de la journée, à 3 heures, tac, il reva au marché, il voit des gens qui ne sont pas engagés encore, il les engage, on ne sait pas pour combien. Apparemment, ils font un deal, tout le monde est content, ils vont à la vigne et ils vont travailler. Verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne. Alors, allez voir. C'est la 11e heure. 5 heures de l'après-midi, 17 heures. La journée termine une heure plus tard. D'accord? Il est encore là, dans le marché, dans la place du marché. Il voit des ouvriers non engagés qui attendent. Il les voit. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Parce que personne ne nous a engagés. Allez-y. Alors, écoutez, franchement, si vous étiez eux, comment vous allez réagir? Génial! Je me fais engager à 5 heures de l'après-midi pour une heure de travail. C'est le top. Voilà, mes amis, l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Un maître engage 5 vagues successives d'ouvriers à 3 heures d'intervalle chacun, à 6 heures du matin, 9 heures du matin, midi, 15 heures et 17 heures. Et ça, ça nous amène au verset 8. 8. Avant de lire, sachez que ce verset 8 décrit la fin de la journée. Le moment de la paye. Alors j'aimerais vous poser une question, et je sais qu'en France, on ne devrait jamais poser cette question, mais je la pose quand même. Et vous devez être honnête avec moi. Est-ce que vous aimez être payé? Alors qui dit oui? Oui, d'accord. Ah, je savais que vous aimiez être payé, d'accord. Mais bien sûr qu'on aimait payer, c'est le fruit de notre travail. Alors voilà, au verset 8, c'est le moment de la paye, tout le monde est content. Le soir venu à 18h, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant du dernier au premier. Alors ce qui est assez amusant ici, c'est qu'il fait payer, enfin deux choses étonnantes se passent. La première chose, c'est qu'il demande de faire, c'est ce qu'il demande de faire à son intendant, de payer les ouvriers allant du dernier au premier. Écoutez, c'est un peu bizarre. Moi, j'habite en Suisse, enfin, j'habite en France, je travaille en Suisse. Nous, on est très logique là-bas, d'accord? D'habitude, je commence avec 1 et je vais jusqu'à 10. Eux, c'est le contraire. Moi, j'aurais payé le premier engagé, juste dans la logique des choses. Ben, lui, il fait le contraire. Le dernier engagé, il le paye en premier. Et deuxièmement, un peu étrange, c'est concernant combien chacun est payé. Verset 9 nous dit, ceux de la 11e heure vinrent, donc ceux qui ont été engagés à 5 heures d'après-midi, qui ont travaillé une heure, ils arrivent, ils sont payés, et chacun reçut un denier. Alors attendez voir là. Ça, c'est le salaire d'un jour. Complet pour une heure de travail. C'est ce que c'est leur réaction? Top, les mecs. Le meilleur jour de ma vie. C'est le rêve de tout homme. Vous êtes d'accord avec moi? Peu de travail, beaucoup d'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ouais, on est tous d'accord. C'est le rêve de tout homme. Il dit c'est le meilleur jour de ma vie. Un jour de salaire pour une heure de travail. Verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Alors, attendez voir, il y a une queue, les derniers sont payés, et les gens commencent à parler dans la queue. Ah, trop bien, t'as vu, devant, ils se sont fait payer un denier. Alors, toi, t'es tout derrière, t'es dit, t'as voir, c'est trop génial, mais ça, c'est trop beau. Moi, j'ai travaillé 11 heures. Ils ont un denier pour une heure, 11 heures, 11 deniers. Ils vont dire, mais c'est le meilleur jour de ma vie. Et un jour de travail, deux semaines de paye. Dites-moi que c'est pas bien, ça c'est pas mal, non? On est d'accord? Mais ouais. Ils disent, mais c'est génial, le top du top. Et tout d'un coup, tout change. Les premiers vinrent ensuite, verset 10, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Alors, j'aimerais m'arrêter et vous poser une question honnête. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce que vous êtes inconfortable? C'est juste ou c'est pas juste? Alors, ce sentiment d'inconfort, c'est exactement ce que Jésus veut qu'on ressente ici. Est-ce que c'est normal de payer ceux qui ont travaillé une heure la même chose que ceux qui ont travaillé 11 heures ou 12 heures? Le même salaire. À quelque part, moi, je comprends la réaction des ouvriers. Au verset 11, en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal que nous, nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Non mais franchement, moi je comprends. Moi j'ai galéré depuis 11 heures dans la chaleur du soleil, grand coup de soleil. Puis là les autres, ils viennent à 5 heures, là, tac, dans l'ombre de la soirée, un petit peu en fraîche, même pas une goutte de sueur, tac. Ils prennent quelques raisins et ils ont le même salaire que moi. Alors verset 13, il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne t'ai pas fait tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant que toi. » Alors, c'est très important ce que je veux dire. Écoutez, je vous pose cette question. Le maître, est-ce qu'il était injuste de payer les derniers arrivés un denier? Est-ce que c'était injuste? Pour une heure de travail, leur donner un jour de salaire? Non, ce n'était pas injuste, c'était super généreux. Mais ce n'était pas injuste. Est-ce que c'était injuste pour lui de payer les premiers venus, ceux qui ont travaillé les 11 heures, un denier? Non, ils étaient contents, c'était le salaire d'un soldat romain. C'était une bonne paye. Donc il n'était pas injuste, ni pour les derniers, ni pour les premiers, et ceux qui ont été engagés à 9h, midi et 3h. Est-ce qu'il était injuste? Non, il était super généreux avec tout le monde. Oui, le problème, enfin c'est pas un problème, c'est que le fait est que ce maître était bon et juste et généreux envers tous. Le problème ici, c'est l'attitude des ouvriers engagés en début de journée. Eux, ils voyaient, nous dit le texte, de mauvais œil celui qui était bon envers tous. Ils étaient jaloux. Mais en fait, le maître était bon et généreux envers tous. Et au verset 15, « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien de ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ?» Il était bon. Et ça, mes amis, c'est la parabole. Ça, c'est l'histoire. Étrange, cette parabole, vous ne trouvez pas? Alors, essayons de la comprendre. Deux, le pourquoi. Quand on examine un texte biblique, il faut toujours se poser la question, pourquoi est-ce que ce texte est là? La parole de Dieu est inspirée, chaque texte est là parce que Dieu voulait qu'il soit là, donc il est important, il y a quand même 16 versets. Alors, pour comprendre, il faut comprendre le contexte. Regardez le verset 16. « Ainsi, les derniers seront les premiers seront les derniers. » Certaines Bibles ajoutent la phrase « car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus », mais cette phrase n'apparaît pas dans les meilleurs manuscrits, aurait pu être empruntée de Matthieu 22, 14. Bref, cette petite phrase qui dit « ainsi », ah, le mot « ainsi » est important parce qu'il est en train de lier cette phrase avec ce qui vient de précéder. Ainsi, donc voici la conclusion quelque part, le résumé, il y a un lien. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Alors de quoi est-ce que ça parle ça? Pensez-y. Le premier égale le dernier égale le premier, ça parle d'égalité. C'est précisément ce que la parole illustre si bien. Il y a une égalité. Et là, on a vu au verset 1 qu'il parle du royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a une certaine égalité. Donc, cette phrase souligne cette égalité dans le royaume des cieux. Comme quoi, à la fin, les premiers et les derniers terminent pareil. Ils passent la ligne d'arrivée en même temps. Ils arrivent ce qu'on appelle ex aequo. Tous les ouvriers, qu'ils aient été engagés en début de journée, mi-journée ou fin de journée, tous reçoivent chacun un denier. Ça, c'est l'égalité. Vous dites, ouais, mais d'accord, mais ça veut dire quoi ? Ah, très bien. Alors, reculons maintenant d'un verset. Chapitre 19 est le dernier verset. Regardez. Chapitre 19, verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Tiens, c'est la même phrase, mais inversée, qu'on a trouvée dans Matthieu 20, 16. Donc, ces deux phrases sont liées. C'est comme si un peu un sandwich, d'accord ? Chapitre 19, verset 30, c'est le pain. Ensuite, 20, 1 à 15, c'est la viande. Et ensuite, le verset 16, c'est encore un bout de pain. C'est vraiment deux bouts de pain égaux ici, mais inversés. Ok, mais ça veut dire quoi ? Ah, ben, il faut encore reculer. Il faut encore reculer. Regardez le verset 29 du chapitre 19. Jésus dit, il parle à ses disciples et il dit, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple, regardez la clé, et héritera quoi ? La vie éternelle. » C'est la clé, mes amis. Tout le chapitre 19, qui est l'histoire du jeune homme riche, qui cherche le salut, mais ne comprend pas que le salut est donné par le Seigneur. Tout le chapitre parle du salut, la vie éternelle. Et ce qu'on apprend au verset 29, c'est ceci. « Quels aura été les sacrifices engendrés pour suivre Jésus-Christ, la vie éternelle est promise pour tous ceux qui suivent Jésus-Christ. » Que tu étais engagé en début de journée, parce que le lien est clair, ou en fin de journée, que tu aies travaillé toute la journée, ou juste une partie de la journée, que tu aies travaillé dans la chaleur du jour, ou dans la brise du soir, la destinée finale est la même pour tous. La paye est la même pour tous. Tous les croyants reçoivent un denier qui symbolise la vie éternelle, chapitre 19 et le verset 29. Je le dis d'autre manière. Vous annoncez quelqu'un à l'évangile à quelqu'un, un ami à l'école ou peut-être au travail, et vous leur dites, écoutez, j'aimerais te partager un verset dans la Bible. 10 chances sur 10, vous allez à Jean 3, 16 et vous dites, regarde ce que dit la Bible, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est là. Bah, c'est ce que vous dites à tout le monde. Vous leur dites, si tu crois en Christ, Christ qui est mort et ressuscité pour toi, lui rentre dans ton cœur, prend ton péché, l'élimine, le chasse, l'ôte, le pardonne et il te donne la vie éternelle. C'est ce qu'on dit aux gens, non ? Moi, j'aime bien utiliser Éphésiens 1, 3, 4. Moi, je dis aux gens, écoute, si tu viens à Christ, si tu places ta foi en Christ, écoute. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Si tu crois en Christ, qui va te bénir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et là, ils te regardent et ils n'y comprennent rien, quoi, tu vois. Mais c'est incroyable ce que la vie éternelle nous donne, ce que Dieu nous donne dans la vie éternelle. Bénédiction éternelle dans la présence de Dieu. Et ça, mes amis, c'est le but ou le pourquoi de la parabole. De nous dire que quelle que soit la personne, celle qui, par la foi, reçoit Christ comme Sauveur et Seigneur, recevra un denier, la vie éternelle. Peut-être que vous réagissez maintenant et vous dites, mais John, écoute, franchement, là, écoute, attends une minute. Est-ce que ça méritait 16 versets dans la sainte parole de Dieu juste pour dire ça? Jean, lui, il a tout résumé en un verset, Jean 3,16. Matthieu aurait pu, je sais pas, résumer en un verset, quoi. Pourquoi toute cette longue parabole? Et c'est là où j'ai commencé à me gratter la tête pour comprendre. Et moi, j'aimerais vous montrer que je pense que tout ce texte est consacré à ça pour nous montrer et nous décrire la doctrine de la grâce de Dieu qui émerge ici d'une manière franchement spectaculaire. C'est ce que j'aimerais vous montrer maintenant, dans la troisième partie, les principes. Quels sont donc les principes à tirer de cette parabole par rapport à cette grâce de Dieu qu'il nous donne? Ben voici le premier principe. Je pense que cette parabole nous montre que la grâce de Dieu se voit dans cette parabole lorsque nous considérons la différente durée de service au Seigneur par les croyants. Vous allez comprendre dans deux secondes. Cette parabole, vous rappelez, il y a des ouvriers qui ont été engagés à 6h du matin, 9h, midi, 15h et 17h. Donc tout au long de la journée, ils ont travaillé des longueurs différentes. Mais ils ont tous reçu la même paye à la fin. Ben, quelque part, la même chose est vraie avec la vie éternelle. Tous les croyants, quelle que soit la durée de leur service de foi, du moment où ils rencontrent Christ jusqu'à leur décès, où ils sont pris dans la gloire de Christ, eh bien, nous avons tous des durées différentes. Allez avec moi dans vos Bibles, si vous les avez, à Genèse chapitre 5. Je vais vous montrer ceci. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, il y a des petits versets incroyables. Au verset 21, il y a un homme qui s'appelle Enoch. Il est dit ceci, Enoch est âgé de 65 ans, Genèse 5, 21, engendra Methuselah, Enoch, après la naissance de Methuselah, écoutez bien, il marcha avec Dieu 300 ans. Il faut s'arrêter et réfléchir à ça. J'ai 57 ans, je suis fatigué. 300 ans, c'est moi plus 5 encore. Ça fait long. Mais il marcha avec Dieu 300 ans, il engendra des fils, des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans, il connaissait Dieu, il a été pris. Ça veut dire quoi? Ben dans 2 Rois 2:11, lorsque Élie a été pris, il est allé au ciel dans un tourbillon. Donc Enoch est allé au ciel. Donc il a marché 300 ans avec Dieu, Dieu l'a pris, il est parti au ciel dans la présence de Dieu. Maintenant, allez avec moi à Luc 24, je vais vous montrer quelque chose. Luc 24. Jésus était crucifié et à sa droite et à sa gauche, il y a 2 brigands, vous vous rappelez? Et il y a une discussion qui est engendrée entre 2 de ces brigands. Et à un moment donné, dans le verset 42, un des brigands dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Donc le gars, il est vivant, il est en train de mourir, crucifié. Il va mourir dans les minutes ou peut-être les heures à venir. Il dit à Jésus, « S'il te plaît, souviens-toi de moi lorsque tu rentres dans ton règne. » Et au verset 43, Jésus lui répondit, « Écoutez bien, tenez-vous bien, je te le dis en vérité. » Quand Jésus dit ça, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment vrai. Alors tout ce qu'il dit est vrai, mais là c'est vraiment, vraiment vrai. Il dit, Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité. » Écoutez bien, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quand? Aujourd'hui. Mes amis, cet homme n'a cru que peut-être 1 ou 2 heures avant de mourir. Et quelle fut sa destinée finale? Christ lui a promis le paradis, la vie éternelle, le jour même. Écoutez, c'est étonnant de penser au fait qu'une personne qui vient à Christ 1 heure avant de mourir passera l'éternité dans la joie du paradis tout autant qu'une personne qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Voyez-vous, Enoch a marché avec Dieu 300 ans, le brigand sur la croix, une heure. Et les deux se retrouvent dans les gloires du ciel, à côté de Dieu pour toute l'éternité. Vous savez, moi, quand je me suis converti, j'avais 19 ans. J'avais un sac à dos, je suis parti jusqu'en Inde pendant 6 mois, à l'aventure, par bus et train. Et j'ai rencontré un missionnaire à New Delhi, le 2 novembre 1976, qui m'a parlé de Christ en utilisant Jean 3,16. Et dans la rue à New Delhi, Dieu a transformé ma vie. J'ai accepté Christ comme sauveur et seigneur et m'avait été bouleversé. Je suis rentré aux États-Unis, je suis américain d'origine et j'ai essayé d'amener toute ma famille à Christ. Plusieurs se sont convertis, mais mon grand-père résistait. J'ai essayé de l'amener à Christ, je lui ai annoncé l'évangile. Non, rien, tac, tac, tac. Ma grand-mère s'est convertie, mon autre grand-mère s'est convertie, mon frère s'est converti, mon grand-père, rien. Et un jour, il est mort. Son infirmière nous a appelés, elle était chrétienne, et nous a dit ceci. Il était 3 heures du matin. Votre grand-père était dans son lit mourant. Tout d'un coup, avec toutes les forces qui lui restaient, il s'est assis dans son lit. Il a levé les bras au ciel et il a dit, « Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. » Il est retombé dans son lit et il est mort. Alors, moi, je ne connais pas le cœur de mon grand-père, mais si ce cri, mes amis, était authentique, où est mon grand-père aujourd'hui? Il est à côté du brigand sur la croix. Il est à côté de Enoch. Et moi, je pose la question, est-ce que ça, c'est juste? Est-ce que c'est vraiment juste qu'une personne qui a marché avec 300 ans, et on sait que ça veut dire beaucoup d'épreuves, et le même paradis qu'un homme, que mon grand-père, qui était rebelle à Dieu toute sa vie jusqu'à l'âge de 85 ans, et la dernière minute demande à Christ de le sauver. Et là, ils sont côte à côte. Mes amis, non, ça, c'est pas juste. Ça, c'est la grâce. C'est ça, la grâce de Dieu. Voilà ce qu'il t'accorde. Et si tu es ici ce matin et tu ne connais pas cette grâce, honnêtement, je te plains. Comme je me plaignais moi avant, une fois que j'ai compris, parce que Dieu t'offre cette grâce maintenant, si tu la veux. Regardons un deuxième principe. Deuxième principe sur cette grâce incroyable de Dieu. Deuxième principe, c'est que la grâce de Dieu se voit dans cette parabole lorsque nous comparons les sacrifices inégaux subis par les chrétiens. Ça, c'est vraiment intéressant. Revenons à la parabole. Alors, il y a des amis qui se sont fait engager à 6h du matin, 9h du matin, midi, 15h, 17h. Et vous vous rappelez que dans la parabole, à un moment donné, il y en a qui se plaignent. Et ils disent au verset 11, en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison en disant, « Mais ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites égal à nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Mais oui, dans cette parabole, certains des ouvriers ont vraiment galéré toute la journée. Moi, j'ai travaillé dans un kibboutz en Israël. On se levait à 4h du matin pour cueillir des olives à kibboutz Bet Hashita. Ben, vers les 11h du matin, mais c'était horrible la chaleur. Et à l'époque, il n'y avait pas des grandes glacières au bout des champs pleines de canettes de coca ou de bouteilles d'Evian ou de badois ou d'eau fraîche. Non, aujourd'hui, c'est encore mieux. Il y a des sacs à dos avec des tubes, là. D'accord, et on peut boire toute la journée. T'as soif, hein, vous connaissez ça, non? Non, mais c'est moderne. Et puis, tu peux mettre des glaçons, tu peux mettre du coulet, tu peux mettre tout ce que tu veux. C'est trop bien aujourd'hui. Ben, pas à l'époque. À l'époque, c'était vraiment dur. Pénible. Voyez-vous, ceci illustre, c'est quoi le contexte? C'est la grâce de Dieu, le royaume de Dieu. Ça illustre quoi? Eh bien, ça illustre que dans le royaume de Dieu sur terre, Il y a certaines personnes qui viennent au Seigneur dans des pays qui sont très hostiles à leur foi. Ils doivent sacrifier énormément. Leur labeur est difficile. C'est ce que Pierre disait juste avant, ça c'est le contexte, verset 29, et quiconque... verset 28. Jésus leur répondit... verset 27, excusez-moi. Pierre, prenant alors la parole, leur dit, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» Pierre, à un moment donné, il se dit, « Mais attends, voir, c'est quand même dur la vie chrétienne. Oui, je te suis, oui, je reçois la vie éternelle, ça c'est vrai, mais j'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour toi, Seigneur. » Donc au verset 28, Jésus leur répondit, « Je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes. » Donc il est en train de leur dire, « Écoute, je sais, le sacrifice est parfois dur, mais regardez ce qui vous attend. » Et vous jugerez les 12 tribus. Et quiconque, Jésus dit, aura quitté à cause de mon nom, donc impliqué, tu veux suivre Christ, ça va te coûter. Tu vas devoir payer un prix. Pourquoi ? Parce que ta vie chrétienne va aller à l'encontre de celle du monde. Ta famille va te rejeter peut-être. Moi, il y a un musulman qui s'est converti dans notre église, juste avant qu'il donne sa vie à Christ, je lui dis, Nabil, fais attention. Si tu viens à Christ, ça va te coûter cher. Surtout pour toi, ta famille va se tourner contre toi, tu vas être persécuté, tu pourrais même mourir. Donc calcule bien le prix avant de venir à Christ. Mais tu sais quoi ? Christ t'offre la vie éternelle. Mais calcule bien le prix. Il est allé dans un champ, il a réfléchi, il s'est mis à genoux, et il a demandé à Christ de le sauver. Et ça n'a pas été facile pour lui. Du tout. Oui, pour certains, c'est dur. Je vais vous lire Hébreux 11. Écoutez juste quelques versets, mais c'est des versets, moi, qui me font mal. Hébreux 11, 35. Vous vous rappelez ces versets ? Voici ce que certains ont dû subir pour la foi. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point la délivrance. Hébreux 11, 35. Afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison, ils furent lapidés. Il faudrait qu'on prenne du temps pour décrire tout ça. Ils furent lapidés. Ils furent, ça c'est le prochain qui me fait vraiment... Ah, ils furent sciés. Imaginez être sciés en deux pour votre foi, vivant. Torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent là et ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, etc. Voyez-vous, mes amis, il y a certaines personnes qui doivent sacrifier énormément pour l'Évangile. Si vous allez au musée du désert, il est à quelle distance d'ici, Michel, le musée du désert ? Tu connais ? C'est à une heure ou deux ? Trois ? D'accord. C'est dans quelle ville ? Je ne me rappelle plus. C'est où ? Vous connaissez ? Musée ? Fait rien. Et la tour de Constance est loin d'ici ? Bref, Aigues Mortes, d'accord. Allez au musée du désert, regardez sur Google, c'est incroyable. On est allé, moi j'ai pleuré dans ce musée, parce que ce musée montre les persécutions qui ont eu lieu ici en France, dans les Cévennes, dans les années surtout 1702 à 1714. D'accord ? C'est cette malheureuse histoire des protestants de France, c'est ce qu'on appelle la période du désert. Louis XIV, lui qui détestait les protestants, qui se sont enfuis, il avait une armée qui s'appelait les Dragons du Roi. Et cette armée était déployée par Louis XIV pour débusquer les protestants en France et pour qu'ils fassent n'importe quoi pour les faire abjurer. Et tout était autorisé. Alors, les pasteurs qui étaient pris subissaient la pire des peines, la roue. Il y avait une grande roue, ils les mettaient dessus comme ceci, à plat, sur une plateforme dans le village. Et le bourreau prenait une barre de fer et commençant avec les doigts d'orteil, schlac, cassait les os dans le pied et lentement montait à la première jambe, cassant tous les os, la deuxième jambe. Il commençait avec les doigts, schlac, tac, 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 il cassait tous les os lentement et en étant sûr que le pasteur ne mourrait pas. Et une fois que son corps était brisé, il le laissait là, ça prenait 2 à 3 jours pour qu'il meure. Les femmes des pasteurs étaient envoyées à la fameuse, la célèbre Tour de Constance, je ne sais pas si vous connaissez, où là, il y avait une dame qui s'appelait Marie Durand, qui, elle, pendant 28 ou 38 ans, a été mise dans cette cellule. Moi, j'y suis allé. Il faut aller voir ça si vous êtes évangélique. C'est incroyable, une monstre prison. Elle était là et toutes les semaines, un prêtre venait et lui disait « Tu peux sortir libre si tu abjures ta foi. » Et elle a gravé dans la pierre, et on peut voir sa gravure encore, « Résister ». Les enfants des pasteurs étaient envoyés dans les couvents pour qu'ils soient, eux, remis obligatoirement et instruits dans la religion du roi, le catholicisme. Je ne sais pas si vous savez, mes amis, mais aucun pays du monde, n'a versé plus de sang pour l'évangile que la France. Alors, Jésus a dit dans Matthieu 19, 29, dans cette parabole, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera quoi ? La vie éternelle. » Mes amis, je vous pose cette question simple. Ces gens, Marie Durand, ces pasteurs, ces gens qui ont souffert pour leur foi, où sont-ils aujourd'hui ? Où sont-ils, eux, qui ont cru en Christ et qui ont souffert ? Ben, c'est facile, quelque part. Ben, ils sont au ciel. Ils sont là-haut, en train de bénéficier de cette félicité éternelle qui est la vie éternelle. Maintenant, écoutez ce que je vais dire. Est-ce que tout le monde a vécu ce genre de persécution ? Non. Regardez-moi. Est-ce que j'ai vécu cette persécution ? Non. En fait, j'ai une confession à vous faire. Je n'ai jamais, à ce jour, versé une goutte de sang pour l'évangile. Oh, on m'a injurié, on m'a dit qu'il ne m'aimait pas, on m'a dit que j'étais un fanatique religieux. Ça, j'ai dit, c'est vrai, d'accord. c'est pas faux, quoi, d'accord. Mais je n'ai jamais souffert comme eux. Écoutez ce que je vais dire. Pas tout le monde ne souffre pour Christ de cette manière. Non, certains donnent l'impression de ne jamais souffrir, de ne jamais devoir sacrifier quoi que ce soit dans leur vie. Ils naissent dans des pays libres, riches, prospères. Ils ont un super métier. Ils travaillent pour des sociétés riches. Ils accumulent des richesses. Ils achètent des maisons. Ils conduisent des belles voitures. Ils possèdent peut-être des timeshare de vacances même. Ils achètent aussi des bateaux ou des motos ou des jet-skis. Peut-être ils vont skier dans les Pyrénées ou les Alpes. Ou peut-être qu'ils vont se baigner à la plage et à la Méditerranée. Ils ont une bonne santé, ils ont une sécurité sociale, ils ont des bonnes mutuelles qui remboursent bien, ils ont des bons programmes de retraite, ils se font construire des maisons secondaires ou même tertiaires, ils sont prévoyants, ils vivent dans des pays de liberté chrétienne totale, ils peuvent vivre leur vie chrétienne et leurs rêves chrétiennes, ils peuvent enseigner la Bible, ils peuvent prêcher la Bible, ils peuvent évangéliser librement, ils peuvent ouvrir des écoles chrétiennes, ils peuvent fréquenter des instituts bibliques chrétiennes, ils peuvent aller à des facultés de théologie chrétienne, ils peuvent posséder des Bibles, ils peuvent posséder des livres chrétiens, diffuser des CD, avoir des sites internet avec des vidéos dessus, de messages. Ils peuvent avoir des concerts chrétiens, des livres chrétiens, des programmes de radio chrétiens, des programmes de télévision chrétiens. Mes amis, tout ça sans persécution. Et donc, moi, je pose la question. Attention à la réponse. Est-ce que c'est juste que moi, qui ai si peu souffert dans ma vie, je reçoive la même vie éternelle qu'un pasteur qui a reçu la roue en 1702. Est-ce que c'est juste que ma femme, qui n'a jamais vraiment souffert pour l'évangile, comme moi, reçoive le même ciel que Marie Durand? Est-ce que c'est juste ? Non. Non, ce n'est pas juste. C'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Que Dieu me donne à moi la même chose qu'eux. Ça, c'est franchement incroyable. Et voilà, mes amis, le but de cette parabole. De nous rappeler que cette grâce de Dieu est pas juste. C'est un don gratuit. Il nous l'offre gratuitement. Comment tu dis ? Jésus. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Et il te dit, je t'aime. Donne-moi ton péché. Et moi, je te donne ma justice et la vie éternelle. Quel que soit où tu en es dans la vie, viens à Christ et tu recevras un denier. Est-ce que c'est juste ? Non. C'est la grâce. Seigneur, merci de tout cœur pour ta grâce. Nous sommes comblés par cette grâce, Seigneur. Nous ne comprenons pas ton amour pour nous, ta générosité à notre égard. Pourquoi tu nous permets aujourd'hui de vivre dans une telle liberté ? On ne comprend pas, Seigneur. Moi, je te demande de nous aider à nous plaindre moins, Seigneur, à moins râler, et être un peuple reconnaissant et joyeux, sachant que tu nous as bénis au-delà de l'imaginable, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous t'adorons, nous te louons et nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon parce que parfois nous ne comprenons tout simplement pas que nous devrions être un peuple beaucoup plus joyeux et beaucoup plus reconnaissant. À toi la gloire, ô Jésus.